La main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
On va s'intéresser ce matin à la ville de Grasse, qui est incontestablement la capitale mondiale du parfum.
Et c'est pour cette raison que l'Organisation des Nations Unies a reconnu ce savoir-faire unique et elle l'a inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Officiellement, c'était le 28 novembre dernier.
Alors, quelles sont les fleurs les plus souvent cultivées pour les maîtres parfumeurs?
La rose, et en particulier la centifolia, la rose aux 100 feuilles, elle est la fleur emblématique du pays de Grasse. On y cultive aussi le géranium rosa, l'iris pallida, le jasmin à grandes fleurs, la violette Victoria odorata, attention, elle est cultivée non pas pour ses pétales, mais pour ses feuilles, le lys de la Madone et bien évidemment la tubéreuse.
Alors la tubéreuse, cette plante, est-elle originaire de Grasse?
Absolument pas. La tubéreuse est probablement née au Mexique et sitôt est-elle découverte qu'elle est introduite en Europe, d'abord pour ses fleurs blanches disposées en épis, mais aussi et surtout pour le parfum qu'elle produise.
Oui, un parfum qui serait d'ailleurs envoûtant, dit-on.
Si envoûtant qu'en Italie au XVIe siècle, il est interdit aux jeunes filles de se promener dans les jardins ornés de tubéreuses pour éviter qu'elles s'enivrent de leur senteur et deviennent ainsi des proies faciles.
À Versailles, oui, autre chose.
Oui, parce que attendez, dans le sud de la France aussi, on ne le sait que trop peu. Là encore, il est interdit aux demoiselles de traverser les champs de tubéroses en fleurs, de peur qu'elles ne se donnent au premier venu.
À Versailles aussi, là où vous travaillez d'ailleurs, il y avait des tubéreuses sous Louis XIV.
Oui, et d'ailleurs une petite anecdote à ce sujet. Il se dit, du temps du roi, que le parfum des tubéreuses est entêtant et indispose les femmes enceintes. Pardon. C'est pour ça que Louise de la Vallière, la maîtresse officielle du roi, qui elle le sait, place dans sa chambre des bouquets pour faire croire qu'elle n'est pas enceinte. Et les nombreux courtisans la croient. Ce stratagème va fonctionner un certain temps. Toujours est-il qu'elle va mettre au monde quatre beaux enfants. Comme quoi, de temps en temps, la tubéreuse peut parfois un petit peu perturber les racontars. Alors, faut également savoir que dans les jardins de Trianon, à deux pas du château, la senteur des tubéreuses est telle qu'elles en deviennent véritablement gênantes. Eh bien, dans un courrier que j'ai retrouvé pour vous, Éric, daté du 8 août 1689, Madame de Maintenon, l'épouse de Louis XIV, elle l'a épousée en 1683, eh bien voilà ce qu'elle écrit.
Je cite donc Madame de Maintenon, « Les tubéreuses nous font abandonner Trianon tous les soirs, des hommes et des femmes se trouvent mal de l'excès de parfum. »
Alors peut-être que c'est vrai que c'est entêtant, nous en avons mis, nous, quantité depuis quelques années, je n'ai pas encore vu une seule fois une femme défaillir et pourtant je peux vous assurer que j'ai guetté. Alors il faut préciser que les jardiniers de tout temps ont apprécié cette fleur pour ses qualités ornementales et on peut être même avec élaborer un joli filtre d'amour, joliment baptisé, le parfum d'Aphrodite. Eh bien, je vous en ai apporté, Patricia, un flacon ce matin.
Tiens donc, quel menteur, c'est vrai? Mais non, quel menteur, Alain Baraton, quel menteur!
Avouez que je suis crédible.
C'est crédible, mais j'ai vérifié, c'est faux. Alain Baraton, jardinier de Versailles, question des auditeurs et des auditrices de France Inter, Nadine. On lui a offert à Nadine un néonium atropurpureum.
Oui,
alors pourquoi? Je vais le redire. Arthro purpureum.
Vous l'avez parfaitement dit, ça veut dire pourpre.
Bon, très bien. Alors elle l'a arrosé, mis à l'abri de la chaleur, mais hélas, il s'est desséché. Quel conseil pourriez-vous lui donner?
C'est pourtant une plante qui supporte bien le grand soleil. Pour vous en dire, cette plante est originaire du pourtour méditerranéen et en particulier du Maroc. Donc c'est une plante qui ne craint pas la chaleur, qui ne craint pas la sécheresse, mais qui est une plante. Alors petite précision, l'aimonium ressemble grosso modo à un artichaut. Pour faire très simple, un artichaut qui pousse au ras du sol. Et en fonction de la luminosité, la couleur des feuilles change et elle peut devenir, vous l'avez très bien dit, pourpre quand elle est vraiment en plein soleil. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Simplement, cette plante aime bien avoir une petite ombre légère. Elle aime bien avoir, manquer d'eau, mais pas trop. Donc, on la plante en situation... ensoleillée,
mais pas trop
non plus, et on n'oubliera pas d'attendre que la terre ait séché avant de réarroser.
Éonium atropurpureum.
Oui, tout à fait.
Marie nous parle de ses parents qui ont un cerisier dans leur jardin qui donne des cerises jaunes et roses, on les appelle les cerises Napoléon, oui. Et elle se demande, Marie, tout simplement, d'où vient le nom de cette variété de cerises?
C'est toujours très dur de connaître l'origine du nom des plantes. J'avais fait une chronique, souvenez-vous, il y a quelques années ici même, sur les noms de poires. C'est que lorsque l'on crée une nouvelle variété, il est de bon ton de donner un nom à cette variété. Et les poires, souvent, ce sont des noms de femmes. Eh bien, en 1920 et quelques, il y a un homme qui a baptisé une variété de poires. Je vous assure, je ne plaisante pas. Petite pute, avouez que c'est quand même particulier. Et imaginez, vous allez au marché demain et vous demandez à la marchande, dites-moi, elles sont comment vos petites putes? Non, ça ne se fait pas. Bon. Moralité, ce fut un échec commercial.
Et la cerise Napoléon, alors?
Eh bien, la cerise Napoléon, il se dit que Napoléon, l'empereur, aimait beaucoup les cerises et qu'il adorait en grignoter lorsqu'il se déplaçait en carrosse. Peut-être, ce n'est certainement pas. Moi, j'ai lu dans, sur Internet, j'ai vérifié, quantité de cerises, c'était la cerise préférée de Napoléon. Je ne sais pas si vous connaissez la date de la mort de Napoléon. Ce que j'affirme, c'est que cette variété a été créée en 1884. Il y a donc un problème quelque part. Donc, Napoléon aime les cerises. L'obtenteur avait peut-être une petite, comment dire, nostalgie. Fibre bonapartiste. Il était allemand, l'obtenteur. Il l'a baptisé Napoléon parce qu'il aimait l'empereur, tout simplement.
Pierre, qui habite les Hauts-de-France.
L'empereur, je ne peux pas m'empêcher. Parfois, de temps en temps, dans ce studio, on se moque un petit peu. Il est vrai que depuis quelques temps, j'ai pris un petit peu de poids. D'où l'occasion de crier, vive l'ampleur.
Non, bon, laisse-moi. En pleine forme. Barathe en pleine forme ce matin.
C'est effrayant.
Pierre habite les Hauts-de-France et il a rapporté de la Drôme un petit olivier dans un pot. Il l'a mis dans le jardin en été et dans la véranda en hiver. Pourquoi produit-il des olives minuscules?
Si je vous parlais de la variété Skylark, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ben c'est le ciel, Skylark.
Si oui, mais dans le domaine des oliviers.
Oh, j'y connais rien.
Si je vous dis la variété Montra.
Je n'y connais rien.
Ben, ce sont des variétés naines. Il se peut tout simplement, qu'il s'agisse d'un olivier qui produit des olives naines. Ça existe. Mais en général, quand ce n'est pas le cas, si les fruits sont de dimension anormalement petite, c'est que la plante n'a pas de quoi dans le sol, j'allais dire, absorber de quoi se nourrir correctement. Donc il y a un problème soit de plantation, la plante n'a pas pu s'exprimer comme elle l'aurait souhaité et développer ses racines correctement, et à défaut de pouvoir mener à terme une fructification importante, elle préfère privilégier la quantité avec des petits fruits que la qualité en faisant de bons gros fruits.
D'accord. Une balade, tiens, pour terminer, vos conseils du week-end.
Eh oui, Muriel Fagnoni et Julia Gall sont deux femmes qui sont des passionnées de fleurs et surtout d'art. Elles ont décidé de créer une exposition « Quand les fleurs nous sauvent ». C'est un voyage gratuit dans les contrées fleuries tous les week-ends. L'occasion de découvrir quantité de continents, quantité d'artistes, je ne peux pas tous les citer. C'est assez bien fait, c'est nostalgique, c'est beau, c'est artistique. Et c'est donc jusqu'au 14 juillet à la Galerie Le Purgatoire. J'adore, Galerie Le Purgatoire, 54 rue de Paradis. C'est quand même marrant, à Paris.
Alain Baraton, vous reviendrez demain avec vos bons conseils.
Si vous le souhaitez.
Avec plaisir.